Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin Christophe Jourjon, le président de la Fédération UDI de la métropole de Lyon. Christophe Jourjon, bonjour.
Bonjour.
Le 20 mars dernier, 67% des militants UDI ont refusé de participer aux primaires des Républicains pour les présidentielles de 2017. C'est un choix qui avait été réclamé par votre président, Jean-Christophe Lagarde. Alors pour vous, c'est une affirmation de votre identité et de vos valeurs. Pourquoi cette décision était-elle nécessaire?
Je pense que cette décision est nécessaire parce qu'on a des relations privilégiée avec les Républicains et il n'y a pas de difficulté là-dessus. Au-delà de ça, la prochaine échéance importante politique, c'est les présidentielles puis les législatives derrière. On voulait discuter avec les Républicains pour voir s'il y avait un accord sur un programme, sur des grandes lignes de programme, sur un cadre général et après prendre une décision vis-à-vis de la participation ou non aux primaires. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas d'accord programmatique, donc les militants ont considéré qu'en absence d'accord programmatique avec les Républicains, il n'y avait pas de participation aux primaires, et que donc la primaire devenait une primaire interne aux Républicains pour départager 8, 9 ou 10 candidats, tous Républicains.
Sur le problème programmatique, quels sont les sujets qui sont vraiment clivants entre l'UDI et les Républicains? Parce que finalement, ces dernières élections, vous avez beaucoup fait d'alliances, que ce soit au municipal à Lyon, au régional en Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être aux législatives du Rhône en 2017.
Je pense que municipal, régional, c'est une élection locale. Oui. Où il y a un accord sur un projet municipal ou régional. La présidentielle, c'est d'autres enjeux, c'est d'autres questions. Il y a des points qui sont à clarifier, des points de divergence avec les Républicains. Je pense notamment, par exemple, à l'Europe, où l'UDI est un fervent partisan et défend l'idée d'une Europe fédérale, d'une Europe plus intégrée, d'une Europe qui soit aussi une force politique. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui doit être discuté et débattu avec les Républicains, entre autres, et avec l'ensemble des citoyens au-delà, pour voir s'il y a un accord ou s'il n'y a pas un accord sur ce cadre-là. La Belgique a été lourdement touchée. Et on voit bien que là-dessus, on a besoin de plus d'Europe. C'est pas en se repliant chacun chez soi que l'on va améliorer les choses. Les terroristes qui ont frappé la France en novembre, ils étaient français pour certains et pour d'autres belges. Donc on a bien besoin d'avoir une Europe plus intégrée, une Europe qui soit une force politique, une Europe où les pouvoirs de police, notamment sur des affaires de terrorisme ou de grand banditisme, puissent être transfrontaliers, puisque sur cet exemple-là en France, les autorités belges avaient des informations sur les terroristes belges, mais nos policiers français n'avaient pas ces informations. Donc on a besoin d'une Europe intégrée, d'une Europe qui soit une force politique.
Ouais, est-ce que vous comprenez que de l'extérieur, ce vote des militants puisse ressembler à un coup de pression sur une décision qui finalement n'est pas définitive?
C'est pas un coup de pression, je crois que c'est une volonté des deux tiers des adhérents de l'UDI de dire, nous on est attachés à un certain nombre de valeurs, à un certain nombre d'idées.
Oui.
On parlait de l'Europe, ça peut être aussi sur l'économie, ça peut être sur le social, sur l'éducation, et on est prêt à travailler avec d'autres composantes à condition que ce cadre de valeurs il soit partagé en partie ou totalement.
C'est quand même de dire à Nicolas Sarkozy, regardez, vous n'avez pas voulu parler avec nous, on se met en retrait, on fait notre petite sauce dans notre coin, mais si vous souhaitez reprendre les négociations, on pourrait peut-être...
Non, ça c'est une interprétation que vous faites. La réalité, c'est que, encore une fois, on a réaffirmé nos valeurs, on va finaliser notre projet dans les semaines et les mois à venir, pour effectivement pouvoir le présenter aux Français et être clair sur notre projet pour la France.
Sur cette dynamique UDI que vous souhaitez mettre en place désormais après ce vote, vous parlez de solidité de l'UDI, mais le problème c'est que désormais qu'il y a la possibilité d'un candidat UDI pour la présidentielle, il y a les pro-Lagarde, il y a les pro-Morin, il y a les pro-Folio, il y a les pro-Bayrou. C'est une solidité relative, non?
Encore une fois, la priorité, c'est finaliser le projet et le programme. Après, l'homme ou la femme qui porteront et qui défendront ce projet ou ce programme, c'est un deuxième temps. On a encore un peu de temps, l'élection présidentielle, c'est dans un an.
Oui.
Donc il ne faut pas non plus être omnubilé par cette échéance-là qui est proche, mais qui nous laisse un peu de temps.
C'est important quand même, la personne. C'est quand
même
50%
de la victoire. Tout à fait, une élection présidentielle, c'est effectivement l'adhésion du peuple français à un homme ou à une femme.
Mm-hmm.
Donc c'est très important, mais on a encore un peu de temps pour trancher ce point-là.
Est-ce que, comme votre collègue président de la Fédé UDI du Rhône, Bernard Fialer, vous appelez de vos voeux le retour de Jean-Louis Borloo pour fédérer un peu tout ça?
Moi, je ne crois pas aux hommes ni aux femmes providentielles.
Mm-hmm.
Je pense qu'un parti politique, encore une fois, c'est des idées. C'est des hommes et des femmes, des grands leaders et des adhérents. Et derrière, l'ensemble de tout ça fait qu'il y a une dynamique. Donc si Jean-Louis Borloo souhaite revenir, il a toute sa place et moi je serais heureux de son retour. Après, je pense que les choses se mettent en place maintenant, y compris vis-à-vis d'un éventuel retour de Jean-Louis Borloo. Mais je crois qu'on n'est pas dans l'attente d'un homme providentiel. On est dans le travail quotidien pour construire un projet et pour avancer.
Alors ce vote, c'était 67% de 40% des militants. Hein. Attention, c'est pas une majorité-majorité, ce qui veut dire que forcément le vote a eu des effets pas forcément positifs toujours. Au niveau local, par exemple, Marco Goyard, qui est un élu influent dans la métropole de Lyon, a décidé de se mettre en retrait du parti parce que lui, il voulait voter pour Alain Juppé. Est-ce que, finalement, chez les centristes, on reste jamais fâché très longtemps? Est-ce que ça va se régler, ce problème?
Je pense qu'il faut laisser un peu de temps au temps. Marco Goyard, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis 10 ou 15 ans. Ouais. C'est quelqu'un que j'apprécie. On peut avoir des divergences. Effectivement, la participation à la primaire ou l'élection présidentielle, c'est une divergence qui est forte. Au-delà de ça, on partage beaucoup de points communs et donc, voilà, je pense qu'il faut laisser un peu de temps au temps.
À la métropole de Lyon, il y a beaucoup de sujets qui vous concernent en tant qu'élu. Par exemple, la 45, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est un axe entre Lyon et Saint-Etienne. Mm-hmm. C'est plus compliqué que ça, hein. C'est entre la Fouillouse et Brignais plutôt.
Exactement.
On a vu que des élus de droite, des élus écologistes, des élus socialistes étaient contre ce projet qui est porté par la région, par Laurent Wauquiez. Vous, quelle est votre position à ce sujet?
Alors, moi, ma position, elle est ancienne. C'est-à-dire que déjà en 2012, en Conseil du Grand Lyon, j'avais exprimé une opposition à la 45 telle qu'elle était prévue à l'époque et telle qu'elle est encore prévue aujourd'hui.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le projet de la 45, ça permet d'arriver plus vite dans un bouchon plus important. C'est-à-dire que la 45 débouche sur la 450 et je pense que tous les Lyonnais qui utilisent plus ou moins fréquemment la 450 savent bien que le matin ou le soir, c'est une congestion. Or, tel que le projet est construit aujourd'hui, la 45, c'est 50% de véhicules en plus sur la 450. Donc, c'est un projet qui est complètement irréalisable et qui n'apportera aucune solution au problème de liaison entre Saint-Etienne et Lyon. Au-delà de ça, je trouve que c'est 900 millions d'argent public qui vont partir sur la 45.
Oui.
Ça veut dire qu'il n'y aura pas de rénovation lourde de la liaison TER Saint-Etienne-Lyon, où on a besoin d'allonger les quais en gare, par exemple, où on a besoin de sécuriser et de fiabiliser la voie. Et donc, je pense que la mobilité, c'est pas uniquement le tout voiture, c'est pas non plus le tout TER ou le tout TCL. C'est une mobilité qui est une mobilité multimode de transport. Et donc, il faut avoir une vision intégrée, liaison routière, liaison ferroviaire Saint-Etienne-Lyon, et pas uniquement l'un ou l'autre. À l'inverse, si on arrive effectivement à prolonger la 432, qui est donc le grand contournement est, qui aujourd'hui se termine sur un cul-de-sac, si j'ose dire. Si on arrive à le prolonger au sud, pour qu'il relie la 7, la 47 et la 45, ça veut dire qu'on arrive à faire le périphérique, une partie du périphérique lyonnais,
oui,
du contournement lyonnais. Ça permet à ce que les automobilistes qui utiliseraient la 45 puissent, pour ceux qui sont en transit, ne pas passer par le centre de Lyon ou le centre de l'agglomération. Donc là, c'est cohérent. Et ça permettrait à ce moment-là aussi le déclassement de la 6 à 7, d'Écully à Pierre-Bénite. Si on a une vision plus globale et pas uniquement centrée sur la 45, le projet, il peut être débattu. Mais si la décision, c'est uniquement de faire la Fouillouse-Brignais, ça n'apporte aucune solution, ça ne règle aucun problème. Au contraire, ça va amplifier les problèmes de circulation et de bouchons.
Vous avez évoqué le déclassement de la 6 à 7. Aujourd'hui, dans l'état actuel, c'est pas possible. Il faut penser à d'autres infrastructures pour reporter le trafic actuel.
Oui, puisque l'État, chaque fois que le Grand Lyon ou la ville de Lyon a demandé à l'État ce déclassement, s'est défaussé en disant « tant qu'il n'y a pas un contournement lyonnais,
oui,
on ne fera pas de déclassement de la 6 à 7. »
Mais là, Gérard Collomb a l'air sûr de lui. Hein. Le 1er mai, le gouvernement pourrait prendre une position positive.
J'espère qu'on aura une réponse positive le 1er mai.
Oui.
Et je pense que si on arrive d'ici au 1er mai à avoir une proposition de contournement qui soit financièrement réalisable à court terme, ça contribuera à ce que cette décision soit positive.
Merci Christophe Jourjon.
Merci pour l'invitation.
Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.